Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Ainsi de l'émotion qui m'a saisie de me lire en miroir sous la plume de Mona Chollet dans Chez Soi. Au titre de mes paradoxes, je défends ma solitude jalousement, m'isolant chez moi des journées entières, tout en m'engageant le reste du temps dans des processus collectifs épuisants. Casanière, je suis sans cesse en déplacement. Sédentaire, je pratique le nomadisme militant. Et je ne suis sans doute pas la seule à être souvent tentée de tout arrêter, de me retirer dans cet état solitaire si difficile à assumer socialement. Cultiver mon jardin, lire et écrire, contempler, faire sans dire, me suffire à deux. J'aimerais. Je pourrais, j'ai cette chance inouïe. Mais il y a cette petite voix, ce surmoi qui me souffle que c'est trop tôt, qu'on n'a pas le droit de flancher, qu'il faut encore faire société, apprendre, lutter et accompagner.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Corinne Morel-Darleux. Bonjour.
Bonjour.
Corinne Morel-Darleux, vous êtes avant tout conseillère régionale de la région Rhône-Alpes-Auvergne, ou Auvergne-Rhône-Alpes, comme ça dépend du chauvinisme. Et puis, vous êtes ici surtout pour nous parler d'un ouvrage que vous venez de sortir, qui s'intitule « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Ce sont, en sous-titre, des réflexions sur l'effondrement. Alors, première question, est-ce que vous êtes dans un état d'optimisme ou de pessimisme ?
Alors c'est une bonne question. En fait, moi, comme je le dis souvent, je raisonne plus trop en termes d'optimisme ou de pessimisme ou d'espoir ou de désespoir. Je raisonne plutôt en termes de lucidité, c'est-à-dire que j'essaye de regarder les faits et de voir où ils nous mènent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les études scientifiques, les différents rapports d'experts, notamment sur la question de climat et d'extinction de la biodiversité, la lucidité impose de se sentir préoccupé, concerné. Après, je ne suis pas pour autant pessimiste, hein, parce que d'abord, je pense qu'il y a plein de raisons de continuer à lutter et qu'il peut encore se passer de belles choses. Mais je crois qu'on a un devoir, en tout cas, de réalité, de lucidité face à ces faits scientifiques et d'arrêter justement de se bercer d'espoir, comme on dit, par l'expression consacrée.
Le sous-titre « Réflexion sur l'effondrement », est-ce qu'on peut peut-être définir et situer ce qu'est l'effondrement ?
Alors effectivement, c'est un terme qu'on entend de plus en plus depuis quelques mois, qui a notamment été popularisé par plusieurs ouvrages. Un premier ouvrage de Jared Diamond qui s'appelle « Effondrement » et puis les ouvrages de Pablo Servigne et de ses co-auteurs sur la collapsologie. Quand on parle d'effondrement, on parle généralement de rupture d'approvisionnement brutale à l'échelle de la planète et en quelque sorte d'une situation où finalement l'État n'est plus en capacité d'assurer les services aux citoyens qu'on a l'habitude d'avoir en termes de santé, de sécurité, de transport et de rupture de chaînes d'approvisionnement, notamment sur les questions d'alimentation et d'énergie. Donc quand on parle d'effondrement, on parle du fait que de manière brutale, les choses s'arrêtent et c'est en quelque sorte la fin du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors après, évidemment, si on rentre dans la nuance, il y a plein de conceptions différentes. D'abord, il y a ceux qui sont certains que l'effondrement va arriver, et puis il y a ceux qui disent juste « attention, là, il y a un risque que ça arrive ». Il y a ceux qui pensent que ça va se passer de manière soudaine, et ceux qui pensent que ça va être beaucoup plus progressif. Et puis surtout, il ne faut pas que ça nous fasse oublier que des effondrements, des catastrophes, il y en a déjà qui sont en cours dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de milieux sociaux, qui sont sont déjà, eux, en situation de pénurie généralisée, voire de conflit armé pour certaines zones du monde, obligés de s'organiser effectivement sans État qui serait garant des solidarités nationales. Et donc, voilà, la perspective de ce grand effondrement ne doit pas nous faire oublier toutes les catastrophes déjà en cours et qui... touche déjà de manière catastrophique un certain nombre de populations.
Sur ces idées, donc, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre et à qui s'adresse-t-il ?
Alors en fait, ce livre, c'est effectivement, il est sous-titré « Réflexion sur l'effondrement », mais en réalité, il a un propos qui est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ça, puisque le point de départ de ce livre, en réalité, c'est l'histoire du navigateur Bernard Moitessier, qui, il y a pile 50 ans, était en train de faire la toute première course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure, et qui, alors qu'il était en passe de gagner cette course et à quelques encablures de la victoire, a pris son lance-pierre, a catapulté un petit message sur le pont d'un cargo qu'il croisait pour dire qu'en fait, il n'allait pas rentrer, qu'il n'allait pas franchir cette ligne d'arrivée et qu'il allait plutôt continuer en mer. Et ce refus de la victoire, il l'a sorti d'une critique assez acérée de la société de consommation, du règne du financier, du marchand dans les sociétés contemporaines, et d'un grand plaidoyer aussi pour la nature et pour l'écologie. Et j'ai trouvé cette trajectoire de Bernard Moitessier très inspirante, et qu'elle pouvait apporter beaucoup de choses en fait aux réflexions d'aujourd'hui, à cette critique justement de la modernité, à ces perspectives d'effondrement. Surtout à cette notion du refus de parvenir que j'explore dans le livre, qui vient contester la réussite matérielle à tout prix, la compétition des individus les uns contre les autres, et cette espèce de recherche effrénée de la réussite qui finalement est bien souvent une impasse et alimente le consumérisme, la dégradation de l'environnement, la ponction sur les ressources naturelles. Donc voilà, c'est un fil de réflexion qui pose aussi des questions sur à la fois nos choix individuels, nos pas de côté possibles et la manière dont on se positionne dans cette société avec tous ses travers.
Cet ouvrage, est-ce que vous l'envisagez comme un prologue à une pédagogie de comment subvenir au-delà de ce monde en effondrement ?
Alors, moi, il y a deux choses que je voulais absolument éviter avec ce livre. C'est que je voulais pas en faire un essai universitaire ou un gros pavé très intellectualisant et très peu accessible finalement au lecteur. Et puis le deuxième écueil que je voulais absolument éviter, c'est de faire un espèce de petit manuel de développement personnel, un guide comme on en voit fleurir beaucoup en ce moment sur comment rester heureux dans une société capitaliste, ce genre de choses. Donc c'est pas un guide, il y a pas de solutions, il n'y a pas de propositions de ce qu'il faudrait faire. C'est plutôt un questionnement, en fait. Et ce que j'espère, c'est plutôt ça, en fait, que ça amène les lecteurs à faire des pas de côté, à se poser des questions, à réfléchir sur leurs propres choix et peut-être, du coup, à trouver justement des interstices dans leur propre vie où ils peuvent aller trouver du sens et ce que j'appelle aussi dans le livre la dignité du présent, c'est-à-dire des raisons de poursuivre le militantisme, de poursuivre les luttes sociales, le combat pour l'écologie, même dans un contexte justement d'effondrement, parce qu'en réalité, il y a plein de raisons de continuer à se battre, et notamment cette fameuse dignité du présent qui postule que les combats qu'on mène, on ne les mène pas uniquement parce que la victoire est au bout, mais aussi parce qu'il nous semble juste. Et je crois que c'est des points d'appui, en tout cas, qui peuvent être utiles à des personnes qui, comme moi, se posent beaucoup de questions en ce moment.
Les questions, on peut se les poser, effectivement, mais encore faudrait-il en avoir le temps, l'occasion et les possibilités. Est-ce que vous prenez en compte aussi les difficultés sociales des individus ?
Oui, bien sûr. Moi, c'est la raison de mon premier engagement en politique. C'est cette question de la précarité et des inégalités sociales. Donc, je pouvais évidemment pas faire l'impasse là-dessus. Et c'est un sujet sur lequel je reviens à plusieurs reprises aussi dans le livre. Par le biais des conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire que concrètement, on sait bien que pour beaucoup de personnes qui sont en galère et qui sont avant tout préoccupées de manière tout à fait légitime par les fins de mois et par la question de savoir si ils vont pouvoir payer plutôt le loyer ou plutôt la facture d'électricité ou la cantine des gamins, ça, c'est très compliqué de se poser des questions à la fois sur l'état de la planète, sur les perspectives à horizon 2050, ou justement sur des choix individuels de refus de parvenir. Mais justement, j'ai, en écrivant le livre, je me suis beaucoup interrogée sur cette question et je suis allée aussi beaucoup regarder du côté d'autres écrivains, de chercheurs, de sociologues, et j'en ai vraiment acquis la conviction que, en réalité, on ne peut pas justement dénier, sous prétexte de précarité, à certaines personnes le droit d'avoir un tout petit peu la main sur leur vie et sur leur choix au quotidien. Et je crois qu'en réalité, réellement, quelles que soient les conditions matérielles d'existence, et ben ce droit à la dignité, ce droit au refus des cadeaux empoisonnés du système, il doit être universel et qu'il y a toujours des petites marges de liberté à aller piocher. Après, tout en étant lucide hein, sur le fait que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités, les mêmes marges de manœuvre, mais il y a toujours des petits degrés de liberté à aller chercher et je crois que tout le monde aurait à y gagner. En tout cas, moi, je me refuse à considérer que les précaires auraient moins le droit à ces pas de côté que d'autres.
Il y a aussi le piège de l'illusion, hein, d'une société où tout va bien. Et vous citez un peu cet exemple du FOMO.
Oui.
C'est un outil qui permet au pouvoir actuel, hein, au pluriel, d'emmener la population dans un non-sens.
Alors oui, le FOMO, il faut expliquer ce que c'est. Donc c'est un acronyme anglais qui veut dire Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer quelque chose. Et c'est un vrai phénomène de société qu'on constate tous les jours, hein, avec les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, etc., l'ultra-connexion. Qui fait que, voilà, moi je pense que c'est en train de modifier en profondeur la société au sens vraiment de la manière qu'on a de vivre ensemble les uns les autres. Et il y a cette espèce de culte de l'instantané où il faut être en permanence en train de réagir à tout, de ne jamais manquer une information, d'être en réaction épidermique permanente. Et je crois que ça, c'est en train de causer beaucoup de dégâts, et notamment dans le milieu politique, puisque finalement, c'est en train d'entraîner le débat d'idées dans un débat de commentaires et de polémiques, avec en plus un taux d'agressivité sur les réseaux sociaux que moi je trouve absolument effarant et de plus en plus inquiétant, et qui opère un véritable rétrécissement de la pensée. Donc voilà, ça fait partie effectivement des questions sur lesquelles je pense qu'on doit tous s'interroger les uns les autres. En se posant la question de ce que ça nous apporte, parce que ça apporte aussi des choses positives hein, en termes de diffusion, de communication, de militantisme même, d'organisation. Mais ça nous enlève aussi beaucoup de choses. Et donc, je crois que c'est bien d'essayer de faire la part des choses et en tout cas d'en avoir une utilisation au minimum plus raisonnée quand c'est difficile de s'en passer totalement. Et puis, d'investir, par exemple, le champ de tout ce qui est de l'ordre du logiciel libre et des libres et des communs. Il y a de plus en plus d'alternatives, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont en train de se développer à cet égard. Et je crois que ça fait partie des pistes à aller occuper.
Justement, au niveau des États ou même de l'Europe, pensez-vous que cette démarche est inscrite pour l'avenir de vouloir changer la vie des personnes, des populations même, dans une manière de vivre peut-être moins dispendieuse, moins artificielle?
Bah, sur le fait qu'il y ait une volonté de changer la vie des gens, je crois que c'est effectivement le cas. Par contre, je ne crois pas que ce soit dans le sens, effectivement, d'une vie moins dispendieuse ou moins matérialiste. C'est-à-dire que concrètement, on voit aujourd'hui que la plupart des pouvoirs politiques sont gangrénés par des intérêts économiques et par tout simplement un système d'organisation économique qui s'appelle le capitalisme et qui s'est démultiplié ces dernières décennies par le biais de la mondialisation et notamment de la mondialisation des échanges et des flux financiers. Et tout ça a aujourd'hui pour conséquence que la plupart des politiques publiques qui sont mises en œuvre ont plutôt pour leur objectif d'augmenter la croissance économique de ces multinationales, d'augmenter leurs profits et notamment les dividendes versés aux actionnaires, plus que de promouvoir un bien-vivre. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'activités qui sont potentiellement accessibles au plus grand nombre et qui sont gratuites, qui sont des activités de plein air, de marche, de balade, de discussion, de temps libéré, de lecture, de tout un tas de choses associatives ou simplement individuelles qui, en réalité, sont pas du tout mises en avant. Y compris dans les mécanismes de solidarité qui s'organisent dans les squats, dans les réseaux associatifs, etc. Et qui sont obligés de se développer en marge du système et en marge aussi des politiques publiques, c'est-à-dire concrètement de plus en plus sans subvention, sans aide publique, parce que ça ne va pas dans le sens de ce développement du produit intérieur brut et des pouvoirs économiques. Donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment des choses, des marges et des interstices à investir pour développer ces alternatives, pour les organiser aussi en réseau, collectivement. Je parle beaucoup aussi dans le livre d'archipéliser ces îlots de résistance pour, comme ça a été le cas et c'est encore le cas sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, imaginer d'autres manières de vivre ensemble sans tomber justement dans ces colis piégés de l'accumulation matérielle qui non seulement vont pas forcément dans le sens d'un mieux-être, mais qui en plus sont en train de détruire la planète et de moins en moins à petit feu et de manière de plus en plus exponentielle.
Vous citez Mona Chollet dans Chez Soi. Ça touche l'individu en lui-même et de sa situation vis-à-vis de la société. Ça prend déjà une phase d'autocritique.
Oui, alors je tenais beaucoup aussi, effectivement, dans ce livre, à faire des allers-retours entre l'individuel et le collectif et à mêler des éléments plus de réflexion personnelle et de témoignage avec les éléments plus conceptuels, parce que j'ai du mal, moi, à envisager les choses d'un point de vue uniquement cérébral. Et je crois que les parcours individuels teintent forcément les trajectoires, qu'elles soient professionnelles, politiques ou intellectuelles. Et je trouve que justement Mona Chollet, dans cet ouvrage « Chez soi, une odyssée domestique », parle très bien de ces allers-retours en fait, entre intériorité et extériorité, et de la nécessité de mettre un petit peu de soi aussi dans ses écrits. Il y a de plus en plus d'essayistes qui utilisent la première personne du singulier. Et je trouve que c'est important aussi de se mouiller d'une certaine manière, de ne pas rester à distance de son sujet. Et moi, je n'envisageais pas de parler de refus de parvenir et d'dignité du présent sans me mettre à l'eau aussi par rapport à ces questions-là, sans faire part aussi de mes questionnements, de mes doutes, de mes incohérences peut-être parfois. C'est aussi une manière de mettre un peu tout le monde à l'aise et de désacraliser un peu l'auteur, l'essayiste, l'écrivain qui aurait des solutions toutes faites. C'est pas le cas, je crois qu'on est tous traversés par plein de questions, que c'est plutôt sain, vu l'état de la société, d'avoir ces questionnements. Et donc, effectivement, le livre est écrit avec ses allers-retours entre le je, le nous, le il, au sens du e en face aussi. Et je pense que c'est important parce qu'en politique, on a souvent eu les deux écueils, c'est-à-dire des familles politiques qui avaient tendance à ne penser que le nous collectif et d'oublier un peu la place de l'individu là-dedans. Et puis de l'autre côté, les familles plus libérales qui misent tout sur l'individu en oubliant qu'il existe des rapports sociaux du collectif qui jouent aussi dans les trajectoires personnelles. Et donc voilà, réconcilier ces deux dimensions de l'individuel et du collectif en politique me paraît important. Et donc ça me semblait cohérent de commencer par le faire aussi dans la rédaction de mon livre.
Vous citez aussi Émilien Bernard à propos de la lumière des télévisions, les criards de lumière de télévision. Est-ce que la télévision, outil médiatique, est en grande partie responsable de cette régression, je dirais ?
Alors, Émilien Bernard est un journaliste libertaire et en l'occurrence, il a écrit cet article à propos des lucioles de Pierre Paolo Pasolini qui, effectivement, à la fin de sa vie, la dernière année avant qu'il soit assassiné, parlait de l'extinction des lucioles qui disparaissent dans ces lumières criardes de la foule, de la télévision, de la société marchande. Et c'est une image qui m'a beaucoup marquée, qui a marqué d'ailleurs beaucoup de personnes. Hein. C'est un texte assez célèbre que cette lettre des lucioles. Et je pense que la télévision, effectivement, a joué un rôle. Mais comme je disais tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, je crois que c'est surtout l'apparition de ces réseaux sociaux, d'Internet, et de cette ultra-connexion dans laquelle on est aujourd'hui qui a vraiment accéléré les choses. Mais c'est vrai que la télévision a été peut-être précurseur plutôt d'une forme de pensée unique et de modélisation de la pensée en diffusant finalement un discours et une manière de percevoir les choses qui a toujours été assez univoque et qui donnait pas forcément beaucoup la place à des manières alternatives d'interpréter les images. Je crois que à ce titre-là, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur la critique des médias et sur la manière de regarder ces images, d'apprendre à les décrypter et d'apprendre à s'informer surtout à partir de sources différentes. Et il me semble que c'est la base du développement d'une pensée autonome. Et que c'est un combat là aussi qu'il ne faut pas perdre et qu'il faut continuer à alimenter.
Je reviens sur Bernard Moitessier, ce navigateur donc, qui se retrouve seul au milieu de l'océan. Cette image, pour vous, c'est un peu en parallèle ce que peut ressentir une personne qui veut s'engager pour une évolution du monde.
Alors, il y a un terme que j'utilise à propos de Moitessier, justement, par rapport à cette question de la solitude ou de l'isolement. C'est le terme de maverick. C'est-à-dire, le maverick, en fait, au départ, c'est le nom d'un éleveur texan qui avait refusé de marquer son troupeau. Et puis, c'est devenu, dans le langage courant, pas si courant que ça, mais en tout cas, dans le langage commun, c'est devenu un terme qu'on utilise pour désigner des personnes qui vivent en marge du troupeau, mais qui vivent pas non plus totalement retirées. C'est-à-dire que c'est des individus qui ont choisi de rester en marge, mais tout en restant en observation et en interaction, en fait, avec la société. Et j'aime bien cette image-là parce que, à la fois, c'est pas un isolement subi, c'est un isolement choisi. Donc, c'est très différent du renégat, par exemple. C'est pas non plus l'ermite qui choisit de couper tout lien avec la société, mais c'est une manière de garder une distance critique tout en restant relié aux autres. Et c'est vrai que je me retrouve assez dans cette image. Et elle me paraît bien correspondre à Bernard Moitessier parce que il a certes fait cette course en solitaire. Et il y a cette image de Moitessier seul à bord de son bateau qui est beaucoup dans l'introspection et la réflexion, justement parce qu'il a pris le large. Il a peut-être une vision plus affûtée de la société dans laquelle il doit revenir au départ. Et en même temps, c'est aussi un homme du collectif, de la tribu et de l'engagement militant, puisque après ce refus de franchir la ligne d'arrivée, Moitessier continue son trajet en mer, sa longue route, du nom de son carnet de voyage, et il s'installe dans les îles à Papeete, d'où il va poursuivre son combat, qui va prendre plusieurs formes. Il va être très actif dans la lutte contre les essais nucléaires dans le Pacifique. Il va rédiger une lettre à l'ensemble des maires de France pour les inviter à planter des arbres fruitiers dans leur commune. Il va s'engager aussi dans différents combats écologistes, aux côtés notamment d'Alain Hervé, qui est fondateur des Amis de la Terre, qui est décédé récemment. Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui se désintéresse de la marge du monde. Et je trouve que Moitessier a réussi à trouver cette juste distance, de ne pas être totalement happé par le tourbillon, de garder cette distance critique qui permet parfois peut-être d'agir plus efficacement.
Il y a des personnes qui ont énormément de capacités en tout domaine et qui malgré tout refusent de parvenir, ça c'est un passage que vous citez. Comment cette prise de conscience s'opère-t-elle et quels sont les déclenchements d'après vous qui opèrent cette réflexion ou ce mode de vie différent ?
Alors je pense qu'il y a autant de déclics qu'il y a de personnes et de trajectoires. Ça peut être des choses très différentes. Je pense que en réalité, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des moments de rupture très franche. Ça peut arriver. Je croise des personnes pour qui la lecture d'un livre, par exemple, a vraiment provoqué un déclic et qui ont changé de vie suite à des lectures ou des rencontres. Mais généralement, il me semble que c'est plutôt des successions de pas de côté, parce que en réalité, c'est justement plus on se détache et plus le pas de côté devient facile. Moi, je suis très frappée du nombre de personnes que je croise, avec qui je dialogue, qui ont suivi un peu toutes les règles imposées par la société, qui ont recherché dans leur carrière professionnelle des promotions, des salaires avec plus de responsabilités, une meilleure rémunération, etc. Puis qui, finalement, au bout de quelques années, se rendent compte que, ok, ils ont eu leur promotion, ils ont un poste à responsabilité, ils ont un salaire confortable, et puis en fait, ils ne sont pas heureux, quoi. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus aucun temps libre pour vaquer à d'autres activités et pour être à soi. Que l'augmentation de salaire qu'ils ont obtenue, finalement, elle sert à payer une babysitter pour garder les enfants qu'ils n'ont plus le temps d'aller chercher à l'école. Et c'est un peu ça que j'appelle les colis piégés du système. Donc, il y a à la fois ça, donc parfois une prise de conscience, mais qui ne peut pas se faire d'un coup, et puis ce n'est pas simple de changer de vie. Donc il y a besoin de d'abord de petits refus pour ensuite peut-être pouvoir arriver à changer de vie et à y trouver vraiment un plus en termes de bien-être. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui à l'inverse n'ont pas accès à ces colis piégés du système, qui sont justement dans une précarité subie. Et là, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et sur lequel j'essaye de travailler avec des associations qui travaillent en lien justement avec les questions de précarité. Mais je trouve qu'il y a vraiment une espèce de charge de la preuve à inverser et vraiment une force de dignité à réimpulser dans ces milieux précaires, de redonner de la fierté en fait à ces personnes-là en changeant complètement en fait la manière d'envisager la précarité et en essayant d'y retrouver un motif justement de fierté. Mais ça ne peut passer que par la question de l'intention et en trouvant des dispositifs qui permettent de passer d'une précarité subie à une forme de sobriété choisie. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est d'autant plus difficile quand vous avez effectivement des pouvoirs publics et un gouvernement qui font tout pour que ce ne soit pas le cas et pour, au contraire, précipiter des personnes dans une précarité qui ne peut pas être choisie et qui est malheureuse. Mais je pense que c'est un champ d'études, en tout cas, et d'action militante aussi qu'il faut pousser, parce qu'il y a aujourd'hui des ressources et une intelligence et justement une dignité très importante aussi dans ces milieux-là, et j'aimerais beaucoup trouver le moyen de la mettre en valeur.
Cet ouvrage s'adresse à tout le monde. Est-ce que c'est aussi une adresse aux politiques ? Est-ce que c'est un ouvrage qui pourrait les convaincre ?
Alors, pour être tout à fait honnête, en fait, quand je l'ai écrit, j'avais pas en tête des personnes particulières auxquelles je pouvais m'adresser, ni nominativement, ni en termes de grandes catégories. J'espère effectivement qu'il sera lu par plein de personnes très différentes. Et en tout cas, je l'ai vraiment écrit et conçu, même dans son format. C'est un petit format. On a essayé avec l'éditeur de faire en sorte qu'il soit le moins cher possible. Voilà, pour qu'il soit le plus accessible possible. Après, très honnêtement, j'espère effectivement qu'il sera lu par des personnalités politiques chez qui ça sèmera au moins quelques petites graines. Je crois pas qu'il puisse complètement renverser la vie d'adversaires politiques ni leur retourner complètement un système de croyances et de pensées. Mais j'espère, oui, que ça peut en faire réfléchir certains, les plus sincères, dans leur engagement, sur leurs propres pratiques, sur leurs propres discours, sur leur propre manière d'exercer leur mandat ou leur responsabilité politique ou leur militantisme. Et en tout cas, voilà, peut-être que ça contribuera effectivement à... voilà, peut-être au moins à semer quelques graines, effectivement, dans les esprits de certains.
Quelle place aura l'égoïsme à l'avenir ?
C'est une excellente question. C'est une excellente question et je crois que pour y répondre, il faudrait peut-être regarder quelle est la place de l'égoïsme aujourd'hui dans nos sociétés. Malheureusement, souvent, les exercices d'anticipation tirent les fils en réalité des signaux faibles et des prémices du futur qu'on trouve déjà au quotidien, dans notre présent. Et c'est un grand motif d'inquiétude pour moi de voir le développement de ces égoïsmes dans une société qui est de plus en plus atomisée, où on a de moins en moins de mécanismes collectifs, de moins en moins de consentement aux mécanismes de solidarité. Je pense que les gouvernements successifs ont une grande part de responsabilité. Si je prends l'exemple, par exemple, de la fiscalité, des impôts, qui, pour moi, devrait être un magnifique outil de redistribution et de répartition des richesses. Le consentement à l'impôt a de plus en plus de plomb dans l'aile. Et en même temps, on ne peut pas non plus s'en étonner lorsque ce que les impôts devraient financer, c'est-à-dire les services publics, les services de proximité, le capital de ceux qui n'en ont pas, ce patrimoine commun, sont en récession partout. Dès lors, ça paraît logique que de plus en plus de personnes n'aient pas envie de payer des impôts dont ils ne voient jamais la couleur, quoi. Et du coup, il y a un vrai recul des solidarités qui, effectivement, peut poser la question de la place de l'égoïsme dans le futur. Et c'est vrai qu'avec, en plus, la perspective de dérèglements climatiques dont les impacts vont être de plus en plus féroces, de perte du vivant qui va impacter beaucoup de choses, notamment en termes d'autonomie alimentaire, énergétique, etc., on peut craindre que les affrontements et les égoïsmes soient de plus en plus importants. On commence à les voir poindre sur ces thématiques, en particulier dans un certain nombre d'écoles survivalistes qui consistent à ce que chacun s'occupe avant tout de ses proches, des siens, de sa famille, se claquemure dans des bunkers avec des armes et des munitions, en laissant le monde autour se dépatouiller comme il le voudra. Et c'est pour moi une raison de plus de tisser ces réseaux de solidarité, ces réseaux logistiques, d'organisation collective aujourd'hui, tant qu'on est encore dans des conditions pas trop défavorables, parce que je ne crois pas que des logiques de coopération naissent d'une situation de crise et de pénurie. Donc, raison de plus pour faire en sorte que tous ces liens puissent se nouer le plus rapidement possible. Et d'une certaine manière, effondrement ou non, on a de toute manière tout à y gagner.
À la fin de l'ouvrage, vous citez les auteurs qui vous ont inspiré pour rédiger ce livre. Parmi toutes ces personnes qui sont donc nommées, quel est leur point commun ?
Alors, je ne suis pas sûre qu'ils aient un point commun, à part le fait de m'avoir inspiré ce livre, pour le coup, parce que Moi, je suis très éclectique dans mes sources et je pioche très volontiers des idées dans les romans et dans la science-fiction, davantage d'ailleurs que dans les essais de sociologie ou d'anthropologie ou de philosophie ou de que sais-je. Donc, du coup, c'est vrai que les références qui sont à la fin du livre sont très éclectiques et vont de la bande dessinée à des courts-métrages d'anticipation en passant par quelques ouvrages plus cérébraux, on va dire. Peut-être que ce point commun est une forme de... soit d'amour de la nature, soit de conviction chevillée au corps, justement des valeurs de solidarité et d'intérêt général. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment un point commun qu'on peut trouver de manière si évidente.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle prise de conscience de certains dirigeants ou certains partis sur l'écologie et peut-être de revoir le mode de vie ?
Non, je ne le crois pas. Effectivement, on a vu fleurir... dans tous les programmes, dans tous les discours, plus ou moins d'ailleurs, parce que c'est par vagues. Il y a des moments où tout le monde parle d'écologie et d'environnement, puis il y a des moments où ça reflue, puis ça revient. C'est un peu des effets de mode qui sont la plupart du temps très artificiels en réalité. C'est-à-dire que voilà, quand il y a des marches pour le climat qui réunissent du monde, bah, on va avoir effectivement un peu de ce qu'on appelle le greenwashing. Hein, c'est-à-dire ces espèces de petites couches de peinture verte que certains mettent pour ripolliner leur programme. Mais je crois qu'on est très très loin d'une réelle prise de conscience. Et cette prise de conscience, en réalité, elle passe par plein de lieux différents. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience d'abord qui... généralement se fait par le biais des faits, des chiffres, des études scientifiques et qui vient toucher le cerveau, ce qui est déjà pas mal et ce qui est loin d'être le cas de l'ensemble de la classe politique. Et puis après, il y a le fait de se laisser vraiment percuter par ces chiffres, c'est-à-dire de sortir du côté abstrait des chiffres, des dates et des pourcentages d'émissions de gaz à effet de serre et de se laisser percuter concrètement dans sa chair et dans ses sens de ce que ça veut dire. Vraiment, un monde sans abeilles, un monde sans insectes, un monde sans oiseaux des champs, un monde où voilà, tout ça disparaît petit à petit et se meurt. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. D'abord, quand on est sans cesse dans la réaction instantanée, le commentaire politique, ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, ça laisse pas beaucoup de place, en fait, pour se laisser percuter par ce qui vous entoure. Ça passe aussi par le fait d'avoir des temps de lecture, de s'informer, de prendre le temps de la réflexion. Et là aussi, malheureusement, ce temps-là est de plus en plus rétréci dans la vie politique. Et puis, ça passe aussi par le fait d'être en contact avec toutes ces choses qui risquent de disparaître. Et aujourd'hui, la plupart des gens vivent en ville, vivent dans des environnements de béton. Où ils sont de plus en plus coupés en réalité de plein de choses, même des saisons. Moi, je me souviens de ce choc presque esthétique, presque philosophique que j'ai eu il y a 11 ans quand je suis arrivée à Die venant de Paris, où j'ai découvert qu'il y avait réellement 4 saisons, j'en parle un petit peu dans le livre, de découvrir que oui, il y a des fruits qu'on n'a que l'été et où on passe tout l'hiver à attendre avec impatience l'arrivée des premières fraises, par exemple, et inversement, l'été à attendre avec impatience de faire du feu dans la cheminée l'hiver. Et ça, c'est aussi tout ce qui fait la beauté de ce monde et qui donne envie de se battre pour le préserver et dont la plupart des gens aujourd'hui sont coupés. Je crois que c'est aussi une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est de faire en sorte que les informations qui résident là aujourd'hui dans le cerveau de certains puissent descendre dans les tripes et de là dans les poings et permettre de passer à l'action et au combat collectif.
Alors, plutôt couler en beauté, la beauté pour vous, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, la beauté, c'est justement le fait de rester debout, de participer à des actions, à des combats ou même à de l'inaction, en tout cas, qui ne nuit pas, ni aux autres, ni au monde qui nous entoure. C'est le fait de mener des combats justes qui ajoutent à la beauté du monde. C'est le fait de, d'essayer d'aller chercher dans ces interstices quelques grammes de dignité qui voilà, permettent de regarder la société autour de soi sans avoir trop envie de pleurer. Voilà, la beauté, c'est ce que chacune et chacun d'entre nous est en capacité d'apporter. Et je crois que voilà, c'est loin d'être uniquement candide ou anodin. Et je crois que c'est au contraire quelque chose qu'on devrait réinsuffler dans toutes nos pratiques. Et notamment, parce que là, il y a un gros manque dans les pratiques politiques au sens large du terme.
Libertalia est la maison d'édition qui édite, enfin qui sort ou qui fait paraître votre ouvrage. C'est une maison qui a quelques références déjà au niveau de l'édition.
Oui, alors c'est voilà, une très belle maison d'édition, qui est une petite maison d'édition qui vient d'ouvrir sa librairie à Montreuil et qui, effectivement, en tout cas dans cette petite collection littéraire dans laquelle mon livre paraît, a de très beaux noms, puisque vient de paraître un ouvrage de Raoul Van Eghem, que des textes de Jack London ont été republiés dans cette collection. Donc je me sens en très très belle compagnie dans cette maison d'édition qui fait un travail, je trouve, assez remarquable, à la fois de réédition de textes anciens et aussi de prise de risque sur des textes nouveaux et des auteurs contemporains. Donc voilà, avec un travail qui est à saluer et à soutenir.
Jack London, qui était au plus près de la nature.
Oui, Jack London, qui fait partie de ces grands auteurs, qui a su à la fois écrire Le Talon de Fer sur la question sociale, mais aussi L'Appel de la Forêt sur la question de notre rapport aux écosystèmes et au reste du vivant. Et du coup, voilà, c'est une grande fierté pour moi d'être aux côtés de cet auteur qui fait partie des auteurs qui ont beaucoup compté dans mon cheminement.
Les auditeurs auront l'occasion aussi de vous voir à la librairie Mosaïque. On n'a pas une date précise encore, mais nous l'indiquerons sur la page de l'émission. Pour vous, c'est une occasion aussi de convaincre des personnes qui viennent vous voir. D'ailleurs, est-ce que vous avez des détracteurs qui viennent vous voir ?
Des détracteurs ?
Oui, de vos idées, de ce que vous portez. Ou est-ce que... Il y a une confrontation d'idées qui se produit parfois.
Oui, il y a des moments, effectivement, qui sont des vrais moments de débat et de confrontation d'idées. Il y en a, alors pour le coup, qui sont généralement pas très sérieux sur les réseaux sociaux où ça vole pas très haut, mais il y en a qui le sont beaucoup plus, notamment au conseil régional par exemple. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est vraiment sur la confrontation d'idées, sur le projet contre projet, et avec des temps qui sont parfois des vrais temps de discussion et d'échanges sérieux, c'est-à-dire pas juste dans la posture ou l'opposition stérile. On a avec certains élus de la majorité et dans certaines commissions sur les questions agricoles, sur les questions de montagne, de tourisme, de ski, des vrais débats qui sont parfois des débats qui vont bien au-delà de leur sujet et qui révèlent effectivement des vraies fractures idéologiques, mais qui n'empêchent pas en tout cas la discussion. C'est évidemment les moments les plus intéressants. Après, c'est vrai que dans la vie publique, entre guillemets, malheureusement, les occasions de débat sont pas très fréquentes. Je suis rarement invitée dans des vrais débats. En général, ça s'appelle débat public, mais en fait, on est entre personnes qui sommes à peu près sur les mêmes longueurs d'onde, et je le regrette. J'aimerais beaucoup avoir davantage de débats contradictoires, parce que je trouve que c'est aussi des moments intéressants, justement, pour faire vivre un vrai débat d'idées, tout simplement.
Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi qui s'opère dans la manière d'envisager l'écologie comme une création de concepts, d'emplois, d'outils pour la population à l'avenir, autant que ce qui a révolutionné un peu l'humanité, c'est-à-dire l'avènement du portable?
Alors, je pense effectivement qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont en train de se développer en termes d'alternatives très concrètes, très pratiques. Voilà, je suis par exemple en ce moment en lien avec une structure qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui développe des prototypes d'engins agricoles dont les plans sont publiés en format libre sur Internet et qui permettent justement d'être moins dépendants de l'agro-industrie, du pétrole, etc. Des alternatives comme ça, il en existe énormément, notamment dans le domaine de ce qu'on appelle le low-tech, c'est-à-dire tout ce qui permet de retrouver de l'autonomie et de ne pas dépendre des multinationales, du pétrole, de l'électricité, etc. Donc il y a plein de choses qui s'inventent. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça se généralise. Et c'est là où on a aussi un souci par rapport à cette question de la conquête du pouvoir, c'est-à-dire que tant que le pouvoir est entre les mains du camp d'en face, la loi ne permet pas de généraliser ces alternatives, elle ne les soutient pas, et donc on ne peut compter que sur nous-mêmes. Et à ce titre, voilà tout le travail que fait Alternatiba, par exemple, sur la promotion des alternatives, des structures comme l'Atelier Paysan et plein d'autres, sont vraiment des choses à faire connaître, à diffuser, à soutenir. Et du coup, voilà, on a les éléments. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le contexte et, d'une certaine manière, la bataille culturelle, hein, comme le disait Gramsci, pour faire en sorte que tout ça se généralise et devienne majoritaire et populaire au sens du cool, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il faut arriver à faire en sorte que se balader à 20 en moto sur les petites routes du Vercors ne soit plus considéré comme quelque chose de cool, mais que comme quelque chose de vaguement honteux, quoi. Et c'est voilà, là, il y a aussi un pas de côté collectif à faire et des imaginaires à décoloniser et à re-remplir avec d'autres choses. Et là aussi, je reviens à ce que je disais sur la littérature et notamment sur tout ce qui est fiction d'anticipation qui donne à voir d'autres mondes de demain dont certains peuvent être désirables et ça peut donner des idées. Moi, il y a des livres que je trouve intéressants par rapport à ça. Récemment, Station Eleven, par exemple, ou les livres de Damasio, Les Furtifs, là, qui vient de sortir, qui proposent aussi des pistes intéressantes et qui donnent envie, en fait, d'autres choses qui ne passent pas, justement, par la technologie et les gros moteurs. Donc, voilà, on a aussi cette bataille culturelle-là à mener.
Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, donc le titre de votre dernier ouvrage, Corinne Morel-Darleux, qui paraît à partir de quelle date d'ailleurs ?
Le 6 juin.
Le 6 juin. Et vous serez visible probablement à la librairie Mosaïque.
Absolument.
Nous indiquerons une date. Corinne Morel-Darleux, je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce que vous avez un site internet où on peut connaître un peu votre activité ?
Tout à fait. J'ai un blog qui s'appelle revoirleslucioles.org. Et c'est là aussi un hommage à ce texte des Lucioles de Pier Paolo Pasolini dont je parle dans mon livre.
Bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.